Et on est ravis d'accueillir Jérôme Bilois, expert cybersécurité au sein du cabinet de conseil Wavestone. Vous êtes l'auteur du livre Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale, paru chez Hachette. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin face à Patrick Sauss, éditorialiste international à BFM TV. Après donc ces attaques qui ont visé plusieurs ministères depuis dimanche soir, d'ailleurs, est-ce que ces cyberattaques sont toujours en cours ou est-ce qu'elles sont terminées ce matin?
Alors, des dernières communications, leur intensité a vraiment réduit. On peut quasiment considérer qu'elles sont terminées.
Oui. Alors, justement, vous employez un mot important qui a été repris d'ailleurs par les autorités, l'intensité. Intensité inédite, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est le volume de l'attaque. En fait, il faut comprendre qu'on est sur des attaques cyber un peu différentes de celles dont on parle souvent ici, où on va voler des données à l'intérieur d'un site web. C'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé, pour comprendre, c'est comme si on avait une manifestation de pro-russes devant l'Assemblée nationale, des milliers de personnes qui bloquent l'entrée de l'Assemblée nationale et les députés ne peuvent pas rentrer ou alors ils rentrent au compte-gouttes. C'est ce qu'on a vu. Et l'intensité, ben, finalement, c'est le nombre de manifestants, quelque part, qu'il y a eu devant, alors des manifestations numériques, devant les sites de l'État.
Ils ont saturé les serveurs.
C'est
exactement
ça. Données.
Ils saturent les tuyaux qui mènent jusqu'aux serveurs, ils saturent les serveurs aussi, mais ce sont des attaques qui ne rentrent pas à l'intérieur des serveurs.
Alors, c'est pas moins inquiétant. Hein.
Alors, c'est pas moins inquiétant, et surtout, il y a une chose à savoir qui est importante, c'est quand on fait cette forme de manifestation virtuelle, ça peut être aussi une diversion pour que des attaquants plus précis, plus pointus, puissent passer par l'arrière du bâtiment, entre guillemets, pour aller chercher des données à l'intérieur.
Vous, vous dites diversion, et si c'était un avertissement?
Une préparation. Alors, des attaques comme ça, il y en a quand même très régulièrement. Il faut savoir que c'est un outil utilisé très très fréquemment par les activistes, donc ces cyberattaquants qui luttent pour une cause, alors qu'elle soit juste ou fausse ou bonne ou mauvaise, chacun en juge. Mais c'est leur outil de prédilection, parce que c'est finalement une attaque cyber assez facile à faire, mais par contre assez difficile à empêcher. Et donc, elle fait beaucoup de bruit médiatique. Et souvent, leur objectif, ben, c'est justement qu'on en parle dans les médias. Alors, on est en train de le faire.
C'est étonnant, ça, qu'on n'ait pas les moyens techniques de contrer ces attaques.
Parce qu'on on rappelle quand même que ces gens-là sont attaqués à Matignon, au ministère de l'Économie, à d'autres ministères.
La DGSE, la Direction Générale de l'Aviation Civile.
C'est quand même pas rien.
Je refais mon analogie avec le monde réel et avec les manifestants.
Oui.
Si d'un seul coup, vous avez des milliers de manifestants qui arrivent devant un bâtiment, ils sont là.
Mais à 1000, ils peuvent pousser la porte et au bout d'un moment, elle cède.
Voilà. Et donc, la logique, quelque part, c'est aussi de mettre des protections le plus en amont possible. C'est-à-dire les empêcher d'arriver, comme on le fait dans les manifestations. On sait qu'il y a des filtrages en amont. Et donc, ça, il faut le mettre en place et ça prend un peu de temps. Il faut voir que si on voulait une protection parfaite contre ce type d'attaque, ça coûterait des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, pour des attaques qui durent souvent quelques heures, une demi-journée. Donc, est-ce que l'intérêt économique est là? Est-ce que l'argent du contribuable est bien utilisé?
Il y a un intérêt économique, c'est quand même un intérêt stratégique et de secret défense, de protection de nos données quand même.
Alors, les données, elles sont protégées, parce qu'ils ne rentrent pas par ce type d'attaque.
Vous êtes sûr qu'ils n'entreront jamais?
Ah non, ça, je dis pas ça. Attention. Parce que, comme je vous le disais, ça peut être une diversion. Ils peuvent rentrer par le côté, par l'arrière, par le dessous. Mais ça, ils peuvent déjà le faire en parallèle. Et on sait, alors là, c'est des activistes qui se revendiquent plutôt pro-russes. On sait que les Russes ont quand même aussi des équipes d'attaque, elles, très pointues, qui savent percer les défenses, et surtout de manière discrète.
Alors, on va regarder justement, Adeline, l'annonce de l'attaque et apparemment la signature, donc, générique de ces pirates. Cyber Army of Russia. Et ces slogans, disons, un peu fleuris. Fuck NATO, fuck Europe, glory to Russia. C'est une signature, ça?
Oui, c'est une signature.
Mais de gens connus, sérieux, costauds?
Ah, sérieux, costauds. En tout cas, ils savent mobiliser suffisamment pour arriver aux effets qu'on a vus hier. Voilà. C'est pas des gens d'un niveau technologique, technique extrême. Ils n'ont pas des outils d'attaque extrêmement pointus qui percent les défenses. Par contre, ils ont cette capacité à mobiliser autour d'eux des communautés sur les réseaux sociaux pour relayer l'attaque ou à utiliser des PC de pré-piratés, de particuliers, d'entreprises. Peut-être que des gens qui nous écoutent ce matin, ils ne le savent pas, mais leur ordinateur a servi à réaliser cette attaque.
Ah bon? Et ils ne le savent pas?
Pas forcément, non. D'un seul coup, vous savez, votre ordinateur, il se met à plus vraiment bien marcher. Vous dites qu'est-ce qui se passe pendant quelques heures.
Donc l'ordi perso sert de relais à ces attaques?
Exactement. C'est souvent le cas.
On dit que ce n'est pas grave parce qu'ils ne volent pas de données, mais en gros, ils font planter le système, si je comprends bien.
Voilà.
Si on fait planter le système d'un hôpital, c'est quand même ennuyeux, par exemple.
Je n'ai pas dit que ce n'est pas grave, c'est moins grave. Ouais. Parce que finalement, quand ils arrêtent leur système, il suffit de redémarrer les ordinateurs et ça repart.
Est-ce que c'est un outil, Patrick, de déstabilisation des Russes?
Ça peut, parce que je précise quand même que les autorités disent il faut prendre avec des pincettes ce type de revendication. C'est assez pratique. D'ailleurs, ce groupe de hackers, ils sont pro-russes, ils seraient pro-russes, ils seraient aussi pro-islamistes. Enfin, vous voyez des causes qui peuvent faire peur. Mais effectivement, on est dans la déstabilisation et je reviens deux secondes sur l'interview de Volodymyr Zelensky qui répondait à une question sur l'utilisation du feu nucléaire par Vladimir Poutine. Il disait non, il n'est pas fou à ce point, il ne va pas utiliser ça. Par contre, lui, son but, c'est d'allumer des feux de déstabilisation partout dans le monde. Je vais prendre des exemples terrifiants. C'est notre consultant aéronautique Jean Serra qui m'a donné toute la documentation. Est-ce que vous connaissez le spoofing ? Le spoofing, c'est le piratage des systèmes GPS des avions de ligne. À l'automne, un avion d'Air Canada, un avion de ligne, un Boeing, alors ça n'a peut-être pas de rapport avec Boeing qui a ses propres problèmes. Les pilotes, avec l'équipage et les passagers à l'arrière, pensaient être au-dessus de l'Égypte. Ils étaient au-dessus d'Israël, qui tire à fond en sommation, quel que soit le niveau de menace. Ça a été totalement déréglé. Il y en a d'autres, c'était sur un Toronto-Séoul qui a totalement perdu son système. Il pouvait plus bouger.
Mais c'est une blague.
Non, ça n'est pas une blague. C'est Bombardier qui a été touché par tout ça, c'est-à-dire que l'entreprise canadienne a été hackée. Ça s'appelle le spoofing. On perd tout. On ne sait plus où on est. Je vous parle de l'Égypte et d'Israël. Ça a été à peu près la même chose. Et c'est là que vous voyez que c'est vraiment ciblé. Dans le détroit de Formose, on était sur la Chine continentale, on était au-dessus de Taïwan. Ça, ils ne savaient plus trop.
Jérôme, la question d'après, c'est la suivante. Est-ce qu'on a un moyen de se protéger contre ça ?
Ce type d'attaque de spoofing, alors elle est connue depuis des années, c'est la guerre électronique, la Russie est très très forte là-dedans. On brouille les ondes, et finalement tous les systèmes qui reposent sur les ondes pour communiquer, pour se localiser, ne fonctionnent plus. Et c'est pour ça que dans les avions ou les forces militaires ont des systèmes additionnels et ont aussi des modes de fonctionnement manuels pour éviter des catastrophes. Après, ça marche moins vite, moins bien, c'est sûr.
Je voudrais qu'on parle des JO avec cette question toute simple. Est-ce que des hackers peuvent arrêter les chronos ?
Ah, alors ça c'est... Il faut voir que... Ce qu'il faut voir sur les JO, c'est faut imaginer un peu un oignon, vous voyez, avec plein de couches. Finalement, au cœur du cœur du cœur de l'oignon, il y a effectivement l'épreuve et le chronomètre. Voilà, ça c'est des systèmes qui sont numériques. Après, il va y avoir tous les systèmes qui vont suivre les épreuves, les organiser, qui est à quel moment, etc. Après, on a tous les systèmes critiques qui vont faire arriver l'eau, l'électricité, les images, etc. La couche d'après, c'est les transports, parce qu'il faut que les gens arrivent, il faut qu'ils entrent dans le stade, etc. Puis après, on a tout le reste de l'économie. Et vous l'avez dit, je viens de vous le dire, c'est au cœur de l'oignon. Et donc, c'est finalement quelque part ce qui va être le plus protégé par des couches successives de sécurité.
Alors, mais vous ne répondez pas à ma question.
Hein. Mais là aussi, on est sur le manuel. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des chronos. Oui. On ne les voit pas forcément. On est sur. Alors, ce sera peut-être. Voilà. Au dixième près plutôt qu'au centième pour un 100 mètres.
Enfin, vous imaginez quand même une compétition vue par le monde entier stoppée par des hackers. Enfin bon, voilà.
Techniquement, ça peut arriver. Oui. Par contre, la difficulté pour ne pas être détecté est très très élevée. Et finalement, il y a des moyens d'agir qui sont plus visibles et qui sont plus faciles. Et quand on fait les analyses de risque comme ça sur les Jeux Olympiques, justement, l'idée c'est de trouver le scénario d'attaque qui va faire le plus de bruit et qui va être le plus facile à faire pour les attaquants. Et c'est là-dessus que justement, les forces de l'ordre, l'État, notre Agence nationale de cybersécurité se mobilisent.
Est-ce que les plans volés ces derniers temps dans les transports, on s'en souvient, plan de sécurité de la police municipale, si mes souvenirs sont bons, peuvent servir de support ou de porte d'entrée à une attaque ?
On était plutôt sur des plans de sécurité physique, de ce qui a pu être communiqué, et avec justement quand même une confidentialité d'un niveau assez moyen, on va dire. On n'est pas sur le plus critique. Ça peut plus servir à faire des attaques dans le monde réel que dans le monde numérique. Pour le coup.
Bon, vous êtes inquiet pour les Jeux ou pas ?
Non, parce qu'on sait qu'il y a eu quand même une forme de résilience. Les Jeux précédents ont été attaqués. On se souvient des Jeux. La plus grosse cyberattaque était sur les Jeux en Corée du Sud.
Il s'était passé quoi ?
Alors, il s'était passé une attaque cyber sur tout le système de billetterie pendant la cérémonie d'ouverture, qui est le système, le moment le plus visible. Les gens ne pouvaient pas rentrer dans le stade. Si vous regardez les débuts de la cérémonie, les tribunes sont à moitié vides parce que des pirates avaient attaqué et avaient bloqué les systèmes de contrôle des billets.
Bon, on croise les doigts. Merci en tous les cas, passionnant.